Voilà, on reprend notre série dans le prophète Ésaïe. On a fait les six premiers chapitres au mois de septembre-octobre. Et on revient à Ésaïe. Je rappelle un petit verset du Nouveau Testament qui dit « Ces choses ont été écrites pour notre instruction. » Donc même si c'est un contexte historique que l'on va voir, il faut toujours se dire que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et personnellement, j'ai été béni en préparant ce texte, ce chapitre 7 d'Ésaïe, parce que je me suis dit, vous avez déjà eu une belle prédication de Nouvel An dimanche passé, bon, vous aurez une deuxième, parce que c'est un texte très important pour nous. J'ai mis même là une petite citation du milieu qui est le verset clé, on va dire, de ce chapitre. Sois tranquille, ne crains rien. Donc nous sommes dans un monde où les gens se font beaucoup de soucis pour plein de choses, et parfois on peut dire c'est normal parce qu'il y a tant de raisons pour se faire des soucis. Mais voilà, les mots d'Ésaïe adressés au roi Akaz, c'est sois tranquille, ne crains rien. Alors, on va regarder ça. Parce que la première chose à voir quand on est dans l'Ancien Testament, c'est de bien voir le contexte historique, bien comprendre l'histoire en question, et dans un deuxième temps, on peut dire, ok, et nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de cette histoire? Alors, tout ça s'est passé, si vous voulez les dates, à peu près en 735 avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, 8 siècles. 735 avant Jésus-Christ. Et je vais lire les deux premiers versets. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Donc l'assiéger, ils entouraient la ville, hein, normalement, pour essayer d'affamer les habitants. Verset 2. On vint dire à la maison de David, donc la maison de David, c'est la dynastie, hein, c'est le roi, Akaz, les Syriens campent en Éphraïm. Donc Éphraïm, c'est un autre mot pour le royaume d'Israël. Et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités ou inquiets ou secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Donc voilà le contexte. Il y a une petite coalition de deux pays, les Syriens. C'est étrange que depuis 2700 ans après, on parle de la Syrie encore, chaque émission d'actualité. Donc les Syriens viennent avec le royaume du Nord, je vais expliquer cela, contre le royaume du Sud, donc dans la capitale, et Jérusalem. Et ils viennent l'assiéger. Donc on n'a pas encore vu pourquoi, mais je vais l'expliquer, parce qu'en fait, il faut comprendre le contexte historique. Juste pour bien comprendre, j'ai mis une carte là pour que l'on comprenne bien la situation. Donc voilà, c'est le pays d'Israël, on a la mer Méditerranée, Jérusalem, c'est là, ce n'est pas très clair, et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le royaume du Sud, parce que après Salomon, le pays s'est divisé en deux. Il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Sud s'appelle aussi parfois Juda, parce que c'était la tribu la plus importante. Et le royaume du Nord qui s'appelle parfois aussi Éphraïm, parce que la tribu la plus importante, ou simplement Israël. Je sais que ça peut prêter à confusion, parce que quand on parle du peuple d'Israël, pendant quelques années, Israël était un pays à part par rapport à Juda. Juda, c'était le pays du Sud, qui était resté à Jérusalem, la capitale. Et donc, la capitale du Nord, c'était aussi Samarie. Donc, vous avez pas entendu parler des Samaritains. Donc, c'est devenu par la suite comme un autre peuple, pour des raisons un peu historiques. Donc, je résume. Le Sud, Juda, capitale Jérusalem, royaume du Sud. Royaume du Nord, ou Israël, ou Éphraïm. Et il s'était allié avec la Syrie contre Jérusalem. Okay? Ça, c'est la situation. Et pourquoi il s'était allié? La carte suivante. Donc voilà, il y a Israël ici, ce que s'appelle le croissant fertile, parce qu'il y a les grands fleuves Tigre et Euphrate qui sont là. Et en fait, à cette époque-là, c'était les Assyriens. À ne pas confondre avec les Syriens. Et surtout quand on donne le nom du pays, parce qu'on dit la Syrie ou la Syrie, on entend la même chose. Donc, les Assyriens sont ici, avec leur capitale à Ninive, voilà, c'est ça là. Et ils formaient un grand empire. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que les Syriens, ici ça s'appelle Aram, c'était le mot biblique aussi pour la Syrie, on l'appelait aussi Aram. Aram et Israël se sont dit, on va former une petite coalition pour empêcher les Assyriens de venir. Et ce serait bien si Juda se joignait à notre coalition pour s'opposer aux Assyriens. Okay? Vous voyez bien? Donc voilà. La Syrie et Israël voudraient que Juda, le royaume du Sud, se joigne pour empêcher les Assyriens de venir. Et ils ne voulaient pas faire partie de l'empire assyrien. Pigé? Parce qu'il faut bien comprendre la situation, hein, donc avant d'aller plus loin. Et même, en fait, j'anticipe avec un verset que nous allons lire après, au verset 6. C'est marqué, la Syrie et Éphraïm disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche, et proclamez-y pour roi le fils de Tabaël. Donc ils voulaient déposer le roi et mettre un roi fantoche en quelque sorte à la place. Un roi qui était, on ne sait pas qui est Tabaël. On pense qu'il est peut-être simplement un haut fonctionnaire syrien. Donc ils voudraient mettre un autre roi qui serait favorable à leur plan de former une coalition contre les Assyriens. Donc voilà. Le contexte historique. Quel est le message maintenant apporté par Ésaïe? On va lire les versets 3 à 9. Alors, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi, et Shéar-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia, donc c'est Pekach, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville, battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabaël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie, Retsin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Et la Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Ramalia, donc Pekach, est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc, le message vient de faire confiance à Dieu. Voilà l'enjeu. À qui Akaz va-t-il faire confiance? Est-ce qu'il va faire confiance à Dieu dans cette situation? C'est la conclusion, verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. s'ils cherchent à se défendre autrement, là, ils risquent de disparaître. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais pour Ésaïe, le roi syrien et le roi de Samarie, du royaume du Nord, sont, verset 4, deux bouts de tison fumant. Donc, c'est-à-dire près de s'éteindre, vont disparaître. Ce serait la fin de leur règne, même de leur dynastie. D'ailleurs, petit mot technique sur le verset 8, parce qu'en fait, tout cela s'est passé, comme je dis, en 735, et 13 ans après, en 722, les Assyriens ont vaincu Israël, et ils ont déporté la grande partie du peuple. Alors pourquoi 65 ans après, au verset 8, bon, c'est parce que un autre empire assyrien a envoyé des colons dans le territoire d'Éphraïm à ce moment-là. Donc non seulement il avait fait déporter le peuple, mais il a installé d'autres à la place. Donc c'était la fin de leur pays. Si vous voulez, je peux juste vous lire le verset qui le dit, pour prouver que je ne raconte pas de bêtises. C'est 2 Rois 17, verset 24. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Avad, d'Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, ils habitèrent dans ces villes. Donc voilà, il y a beaucoup d'explications historiques et techniques dans les rois et les chroniques, mais c'est simplement pour avoir un peu de hauteur par rapport à ça, pour dire, voilà, dans cette situation politique et militaire, le mot qui arrive pour le roi Akaz, c'est « Sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. » Et alors qu'est-ce qu'Akaz décide de faire? Est-ce qu'il va faire confiance à Dieu? La réponse, oui, non, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il va faire confiance à Dieu? Qui pense oui? Qui pense non? Il y a beaucoup qui disent je ne sais pas. En fait, c'est non. C'est non. Il ne fait pas confiance à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Si vous voulez trouver le récit dans la Bible, c'est dans 2 Rois, hein, parce qu'il faut savoir que donc tous les rois d'Israël, tous les rois de Juda, on raconte leur vie dans les rois et les chroniques. Alors donc 2 Rois 16, on a le récit, on va simplement lire 5 versets qui permettent de voir ce qu'il a fait. De Rois 16 et le verset 5. Donc on revient à la situation historique et puis la réaction d'Akaz. Verset 5. Alors, Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Donc ça, on a déjà vu. Ils assiégèrent Akaz, mais ne purent pas le vaincre. Et dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit rentrer Elath au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Elath les Juifs et les Syriens vinrent à Elath où ils ont habité jusqu'à ce jour. Donc, Elath, si ma mémoire est bonne, est au sud de Juda. Donc, c'est le port sur la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qu'il fait Akaz? Verset 7. Là, ce sont des trois versets très importants. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent, donc en cadeau, au roi d'Assyrie. Et le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, capitale de la Syrie, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin. Donc, si je reviens à ma carte, donc, Akaz dit, voilà, il se ligue contre la Syrie, mais la Syrie est plus forte, je vais me mettre volontairement, en quelque sorte, sous la protection de la Syrie. Donc, et il a demandé aux Assyriens de venir et s'attaquer à Israël et à la Syrie. Et il prend même l'argent du temple pour le faire. Il puise dans le trésor du temple, puis peut-être aussi dans le trésor royal, hein, il a dit la maison du roi. Mais il prend de l'argent et de l'or dans la maison de l'Éternel pour acheter la protection. Ce qu'il a fait, il a acheté la protection des Assyriens. Maintenant, on peut revenir dans Ésaïe. Parce que je pense qu'Ésaïe a bien compris, et vous allez voir pourquoi. Verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. Et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Alors, Dieu est extrêmement bon envers Akaz, parce qu'il dit, non seulement je fais ma promesse par la bouche d'Ésaïe, sois tranquille, ne crains rien, mais tu peux même demander un signe en confirmation. Et Akaz, très spirituel, dit, non, je ne tenterai pas Dieu, en citant d'ailleurs le Deutéronome 6, qui dit, vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu. Donc il commence à citer la Bible pour dire, non, je vais désobéir à Dieu, alors que Dieu lui a dit de demander un signe. Donc c'est dans la tentation de Jésus, on a déjà ça, où le diable même cherche à citer la parole de Dieu. Alors, il refuse en fait le test. Et c'est à ce moment-là qu'Ésaïe a compris qu'il s'était endurci le cœur et qu'il avait déjà un autre projet d'aller acheter les Assyriens pour qu'ils viennent le délivrer. Donc le fait de refuser le signe était en fait la il a rendu visible, en quelque sorte, qu'il avait d'autres projets. Alors, à ce moment-là, Ésaïe dit, « Ok, alors, si tu ne veux pas demander un signe, moi je vais proposer un signe, à la place. Si le signe pour le roi était un signe de confirmation, on va dire que Ésaïe propose un signe de prédiction, ce qui va se passer après. Alors, je vais lire ce texte, parce que cela parle donc d'Emmanuel. Alors, la première chose que je demande, c'est d'oublier Noël. D'abord. Et on va lire le texte tel qu'il est, et on va voir pourquoi ça parle de Noël, Emmanuel, après. Mais dans un premier temps, on est maintenant le 9 janvier, on peut oublier Emmanuel et Noël. Et on va lire le texte tel qu'il est. Okay? Verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Donc, Ce qui est surtout important de retenir ici, c'est le dernier verset, c'est le délai en temps, le délai chronologique. Avant que cet enfant dont il est question sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays sera abandonné. Donc je vous rappelle que c'était finalement en 722, seulement 13 ans après, avant Jésus-Christ, que les Assyriens se sont attaqués vraiment, pas uniquement pour délivrer Jérusalem, mais vraiment, et ils ont déporté les habitants et puis après installé d'autres, etc. Donc, ce que Ésaïe était en train de dire, c'est qu'un enfant va naître. Et avant qu'il arrive à l'âge de la raison, à ce moment-là, la Syrie et Israël n'existeront plus. C'est le sens d'abord de ce texte. Hein. J'ai dit, oubliez Noël. La question, c'est quel est l'âge de la raison? Parce que c'est marqué là, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. Certains pensent que c'est autour de 6 ans, parce que c'est à ce moment-là, on peut dire qu'un enfant vraiment commence à bien comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Mais c'est un peu trop bref comme délai. Certains vont dire, c'est justement 12 ans. Parce que dans la tradition juive de l'âge de la bar mitzvah, c'est le jour de ses 13 ans que l'enfant est considéré comme adulte et qui rentre dans la communauté d'Israël, la bar mitzvah. Donc c'est à cet âge-là qu'il est tenu d'accomplir les commandements. Il y a une troisième interprétation pour dire que c'est 20 ans, parce que c'est à ce moment-là que l'on pouvait également devenir roi légalement, sans être accompagné, si on veut, par quelqu'un d'autre. Et c'est aussi quand les Israélites ont traversé le désert et ils ont murmuré et Dieu leur a dit non, que vous ne rentrerez pas dans la terre promise, tous ceux qui sont au-dessus de 20 ans. Donc là encore, quoi qu'il en soit, on peut discuter longtemps, mais le plus important, c'est de dire un enfant va naître. Et avant qu'il arrive à l'âge de la raison, Israël et la Syrie vont disparaître. Donc c'est pour bientôt, on va dire. C'est pas demain, mais c'est dans quelques années, au grand maximum. À ce moment-là, il faut se poser la question, mais alors qui est cet Emmanuel? Deuxième question. Et je pense que, comme souvent dans la prophétie biblique, il faut voir la réalisation en plus d'une seule étape. Parfois, il y a des étapes de réalisation qui se suivent. La première réalisation, comme je dis, c'est un enfant qui va naître là. Et dans ce sens-là, il faut comprendre. La Vierge deviendra enceinte. Ça ne veut pas dire qu'elle était vierge forcément en devenant enceinte. Ça veut dire une jeune fille qui est vierge va se marier et elle aura un enfant. Et avant que cet enfant-là, avant que cet enfant arrive à l'âge de la raison, Israël et la Syrie vont disparaître. Donc c'est la première façon de le comprendre et qui va bien dans le contexte. Ok? Mais, cela dit, comme souvent dans les prophéties, il y a une deuxième réalisation, beaucoup plus importante, qui se profile derrière. Parce que je n'ai pas lu le verset 17, parce que c'est un peu la suite, mais je vais le lire. L'Éternel fera venir sur toi, sur ton peuple et sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda. C'est le roi d'Assyrie. Donc là, Ésaïe dit dans sa prophétie que ce qui va se passer là, c'est le plus grand malheur depuis la séparation du peuple d'Israël en deux. Parce qu'en fait, la moitié, plus que la moitié, va être déportée. Et c'est justement le roi d'Assyrie qui va le faire. Mais remarquez bien qu'il s'adresse non seulement à Akaz sur toi, non seulement à toi, mais à tout le peuple, sur ton peuple, et aussi à sa dynastie, sur la maison de ton père. Donc on est dans le contexte de la dynastie. Et à ce moment-là, il faut revenir un petit peu en arrière pour dire que depuis longtemps, le peuple d'Israël attendait le grand roi parfait, le Messie qui allait venir, qui allait accomplir toutes les promesses de Dieu à son égard. Et chaque roi qui venait, en quelque sorte, chaque roi qui accédait au pouvoir, il pouvait se dire, waouh, est-ce que c'est celui-là? Et Akaz, bon, finalement, on voit qu'il est éliminé, c'est pas lui. Donc, on attend toujours cet Emmanuel, ce Dieu avec nous. Et c'est dans ce sens-là que on peut dire que Matthieu cite ce verset par rapport à Jésus, parce que c'était vraiment le roi messianique qui devait venir. Donc, dans ce texte, pour répondre à cette question, qui est Emmanuel, la première raison, on peut dire, c'est le bébé d'une illustre inconnue qui était encore vierge au moment où Ésaïe a fait sa prophétie, qui s'est mariée, qui aura un enfant, et avant que cet enfant n'arrive à l'âge de la raison, les deux pays vont disparaître. Mais le Messie, on l'attend toujours. Et là, on peut revenir à Noël. Il faut dire, justement, c'était là, cette fois-ci, pas une vierge qui devait se marier et avoir un enfant, mais c'était une vraie vierge. Donc le mot d'Ésaïe prend toute son ampleur à ce moment-là. Marie a conçu Jésus en étant vierge et c'est vraiment au sens propre, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était vraiment Dieu avec nous. Donc, cette prophétie avait tout un sens déjà pour Akaz à l'époque, mais un sens encore plus grand, encore plus extraordinaire pour nous qui vivons après l'événement. Ce qui va se passer, c'est que Akaz pense en faisant venir l'aide des Assyriens qu'il avait réglé le problème. Et les versets suivants sont terribles, parce que Ésaïe lui montre que ce n'est absolument pas ça. Que le péril qui va s'abattre sur le pays, donc c'est le plus grave, le danger le plus grave depuis la séparation de Juda et d'Israël, comme j'ai dit, mais aussi ce péril va venir à la fois de l'Assyrie, la Syrie et de l'Égypte, hein, parce que je vous ai déjà dit tout à l'heure que, bon, je vous ai montré la carte, hein, la Syrie était d'un côté, l'Égypte était de l'autre, et Israël se trouvait sur le chemin de ces deux puissances. Et donc, au cours de l'histoire, les siècles qui allaient venir, jusqu'en 587 avant Jésus-Christ, si ma mémoire est bonne, quand Jérusalem va tomber finalement entre les mains des Babyloniens qui avaient pris le pouvoir aux Assyriens, donc le pays sera envahi à la fois des Assyriens et des Égyptiens. Il y aurait des moments très très difficiles, et donc je vais simplement lire ce texte. Et on va voir combien c'est terrible. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons, sur tous les pâturages. Et en ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage, au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et la poil des pieds, et l'on lavera aussi la barbe. Et en ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et deux brebis. Il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de la crème et de miel que se nourriront tous ceux qui seront restés dans le pays. En ce jour-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 sicles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. Et on y entrera avec les flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera le bœuf et la brebis en foulera le sol. Bon, très rapidement, parce que ce n'est pas l'essentiel du message que je voulais faire passer aujourd'hui avec « Sois tranquille, ne crains rien », parce que si on cherche l'appui humain, comme Akaz l'a fait, les résultats peuvent être terribles. Les mouches vont venir de l'Égypte et les abeilles de la Syrie. Donc il faut comprendre les militaires, hein, donc les soldats. Elles vont se poser partout. Et on peut mal comprendre en quelque sorte ce texte si on pense « Ah, c'est super, ils vont manger la crème et le miel ». Non, mais c'était pas, en fait, c'était une façon de dire « Il y aura une sorte de famine ». Pourquoi ? Parce qu'il ne peut plus cultiver le sol. Vous avez lu au moins deux fois, on parle de ronces, d'épines. On n'aura plus que les animaux, on peut donner la crème, et le miel, on peut sauvage peut-être. Il y aura une telle abondance, pourquoi de lait ? Parce que le pays sera dépeuplé. Les cultures ne donneront plus grand-chose. Et même, verset 24, quand on y entrera dans les champs avec des flèches et avec l'arc, probablement parce que, en l'absence de la population, les bêtes sauvages vont se multiplier. Et donc, on aura peur même de rentrer dans les champs sans avoir des armes pour se protéger. Voilà. C'est justement pour vous dire rapidement le sens de cette prophétie. La conclusion, alors, de tout ça. D'abord, les conséquences d'un choix. Le problème n'est pas au niveau de l'action. J'ai dit même que le problème n'a rien à voir avec l'action nécessaire. Il n'y a pas de reproche fait au roi Akaz parce qu'il était en train d'inspecter le réservoir. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand Ésaïe s'est adressé à lui, et il était là sur l'aqueduc en veillant à ce que l'approvisionnement en eau de la ville soit assuré, même s'il y avait un siège autour de la ville. Et il ne dit pas, il ne faut pas faire ça. Si on vient assiéger, c'est tout à fait normal de vérifier que l'eau soit assurée. Donc il n'y a pas de reproche à ce niveau-là. Le reproche, c'est un autre niveau. C'est le choix de préférer les alliances humaines à la confiance en Dieu. Bien sûr, il faut agir, il faut prévoir raisonnablement. Ce n'est pas là. C'est de dire, mais est-ce que face aux difficultés, je choisis la protection humaine plutôt que la protection de Dieu ? À qui est-ce que je fais confiance ? Donc voilà, quelle est la portée alors pour nous de ce verset ? Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble pas. Je vais te donner 2 minutes de silence. Chacun peut se poser la question. Donc, où est-ce que je dois faire confiance à Dieu dans cette nouvelle année 2017? Chacun peut penser peut-être à un ou deux domaines où il se fait des soucis pour dire, est-ce que je peux faire confiance à Dieu dans cette situation? Donc le mot-clé, c'est la confiance. On peut, comme j'ai dit, veiller à ce que la ville soit bien protégée, tout en faisant confiance à Dieu. Et on ne peut pas, par exemple, dire « je fais confiance à Dieu, mais j'envoie l'argent du temple pour acheter les Assyriens ». On ne peut pas. Ça, chacun doit trouver dans quelle situation il se trouve, sans préjuger de là où on doit aller avec notre propre réflexion, les mesures que l'on doit prendre, etc. Donc ça n'a rien à voir. Vous laissez 4 versets qui se trouvent dans le Nouveau Testament, où Jésus et Paul et Pierre soulignent cette nécessité pour les chrétiens de faire confiance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, donc tout le reste, vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, vous avez compris comme moi qu'il n'y a pas de petit renvoi de notes de bas de page pour dire que rien ne veut pas dire rien ou que il y a des exceptions. Non, c'est ne vous inquiétez de rien. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Prions. Seigneur, ces choses, tu les as fait inspirer ces textes pour que nous puissions apprendre de l'expérience de ceux qui nous ont précédés. C'était ton peuple. Tu as veillé sur ton peuple depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la venue de ton fils Emmanuel, malgré l'infidélité de beaucoup de rois et de dirigeants et même du peuple. Mais en même temps, tu aurais tellement voulu que chacun puisse te faire confiance. Et nous voulons ensemble t'affirmer ce matin que nous voulons être de ceux qui te font confiance. Même si on ne comprend pas tout, même si on peut avoir presque des soucis légitimes, oui, mais en même temps, ce n'est pas ailleurs qu'en toi que nous pouvons avoir confiance. Parce que tu as tué le dernier mot sur tout. Et comme nous l'avons même chanté tout à l'heure, même si finalement on quitte ce monde, nous savons que nous pouvons te faire confiance pour notre vie et pour l'éternité, parce que tu nous as rachetés pour nous donner la vie éternelle. Tu as mis en évidence la vie et l'immortalité, comme nous l'avons vu mercredi. Seigneur, aide-nous tout au long de cette nouvelle année de placer vraiment notre confiance en toi devant toutes les situations de la vie. Au nom de Jésus. Amen.